Christophe Mahé, il est venu chanter, il est venu au Québec pour essayer de trouver le bonheur. Hein? Il est où le bonheur? Il est où? Et je pense que ça fredonne partout, hein, dans la province depuis ce temps-là. Je pense que c'est une question universelle, c'est une recherche universelle. Tout le monde cherche le bonheur. Mais il est où, ça c'est moins évident. On a vu un petit résumé de la dernier message où on a parlé de ça. On voit que c'est le bonheur, il est en Jésus, mais c'est très relatif. Le Canada, dans l'indice du bonheur, si on se fait l'indice du bonheur avec tous les critères, la paix, la sécurité, l'aide sociale, l'espérance de vie, etc., etc., si on prend ces critères-là, le Canada se retrouve au 7e rang dans le monde des pays les plus heureux, selon ces critères-là. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les Québécois sont plus heureux? Ceux qui viennent de l'extérieur, là, est-ce que vous trouvez que les Québécois sont plus heureux qu'ailleurs? Je ne penserais pas. Hein? Je me souviens, dans les années 90, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Oui. Le taux de suicide parmi les jeunes était le plus élevé au monde. Au Québec, dans le 7e pays le plus... je jasais avec Suzanne hier, puis il y a un millionnaire, un dragon, qui il a une maison de 4 millions de dollars. Et puis, il a retrouvé son fils qui s'était suicidé dans cette maison-là. Est-ce qu'on envie les gens qui sont millionnaires quand il y a un fils qui se suicide dans sa maison? Alors, le bonheur, il est où? Hein? Il y a un ancien corps arrière qui il se vante comment il a expliqué à sa future ex-seconde femme pourquoi il l'a trompée, elle aussi. Et c'est où ce qu'il dit? Il dit, Dieu veut que je sois heureux. Dieu veut que je sois heureux. Hein? Alors, s'il y en a une qui ne fait pas, on la dompe, puis on en prend un autre. Puis on sera heureux. Donc, c'est très relatif, le bonheur. Hein? Tout ce qui s'appelle plaisir dans le monde, est-ce que c'est vraiment, ça procure le bonheur? Il peut y avoir beaucoup de plaisir dans la sexualité, dans l'abus de la sexualité, il peut avoir beaucoup de plaisir dans l'abus des substances, il peut avoir beaucoup de plaisir dans l'abus de pouvoir, on vit là-dedans, il peut avoir beaucoup de plaisir là-dedans, mais ce n'est pas un plaisir légitime, ce n'est pas un plaisir qui dure, ce n'est pas un plaisir qui vaut la peine, n'est-ce pas? Alors, oui, Dieu veut que je sois heureux, mais il y a des gens qui ont tout et ils sont plus malheureux que des gens qui n'ont rien. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Il y a des gens qui ont tout, ils sont plus malheureux que les gens qui n'ont rien. Alors, le bonheur selon l'humain, le bonheur selon le monde, c'est une chose, mais le bonheur selon Dieu. On a vu un verset qui est bouleversant, là. Paul il dit, toujours, parce qu'il... Il met le « toujours » au début de la phrase, là, pour souligner l'importance. « Toujours soyez joyeux, car c'est la volonté de Dieu. » Est-ce qu'il y a des gens joyeux ici ce matin? Il n'y a pas d'endroit au monde où on peut être plus joyeux qu'ici ce matin. Hein? On est les gens les plus heureux au monde. Mais à première vue, « toujours joyeux », qui est toujours joyeux? bonne question. À première vue, ça semble impossible. Même on a vu la dernière fois que Jésus n'était pas toujours joyeux, que Paul n'était pas toujours joyeux. Il y a des moments de colère, d'angoisse, des moments de peur qu'ils ont vécu. Alors, un premier indice qu'on a vu pour comprendre c'est quoi qui veut dire toujours être joyeux, qu'on doit toujours être joyeux. Le premier indice qu'on a vu, c'était que c'est un impératif. Si je dis « levez-vous », c'est parce que… Ah, il y en a qui m'écoutent, c'est bon. Si je dis « levez-vous », c'est parce que on n'est pas debout. On n'est pas debout. On est assis, on n'est pas dans cet état-là. Hein? Et ça prend une obéissance, ça prend une participation de ma part pour répondre à cet impératif-là. Alors, quand il dit « toujours joyeux », ça veut dire qu'on ne l'est pas nécessairement, mais il y a quelque chose qu'on peut faire pour goûter à cette joie-là. Même, on a vu que « heureux », c'est synonyme de chrétien. Hein? Nous sommes des heureux élus. On est saints, on est des bien-aimés de Dieu, on est heureux. C'est la définition d'une personne qui est née de nouveau, qui a accepté Jésus comme son sauveur. Un synonyme de ça, ça serait une personne heureuse. Je suis heureux. Hein? Alors, on est heureux de nature. C'est inné avec la nouvelle nature que le Seigneur m'a donnée. J'ai tout pour être heureux. On est condamné au bonheur à perpétuité. Hein? C'est difficile, hein? C'est dur. À l'infini, pas juste à perpétuité, mais le bonheur à l'infini pour l'éternité. On est condamné à ça. Hein? Et c'est garanti, c'est assuré à 100%. 100%. On va être heureux, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de personnes qui vont nous faire mal. Ça s'en vient. Mais en attendant, on peut goûter, appliquer ce bonheur-là qu'on a présentement. Alors, il y a un texte dans Romains 4, il dit « De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de Dieu, de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. » On est-tu heureux ou on ne l'est pas? On oublie que Jésus a pardonné tous mes péchés. J'oublie ça. Hein, ça fait partie de notre jargon, notre vocabulaire. Mais jusqu'à quel point j'expérimente ce bonheur-là d'avoir mes péchés pardonnés. Et jusqu'à quel point la personne qui ne connaît pas le Seigneur peut vivre dans l'angoisse, la honte, la culpabilité que ses péchés ne sont pas pardonnés. Ça fait 50 ans, plus que 50 ans, que je ne connais plus ça, là. Alors, ça, c'était... Il y a des personnes qui sont heureuses ici et plus que partout ailleurs. Deuxième explication pour essayer à comprendre ce « toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Une autre explication, c'est que Jésus il a renversé complètement la définition du bonheur. Hein? J'imagine que lorsqu'il a prononcé ces paroles-là qu'on va voir, le choc que ça a pu provoquer chez les personnes qui ont entendu ça. C'était complètement à l'inverse de la notion du bonheur. Et vous savez ce que je veux dire. Hein? Alors, est-ce que on peut replacer le focus ou c'est mes lunettes qui font défaut? Mais en tout cas, je vais vous lire. Il dit d'un côté, heureux les pauvres, mais il dit, malheureux vous les riches. Heureux ceux qui ont faim, malheureux vous qui êtes rassasiés. Heureux vous qui pleurez, malheureux vous qui riez maintenant. Heureux êtes-vous quand on va vous haïr, malheureux parce que lorsque les hommes vont dire du bien de vous. Réjouissez-vous en ce jour-là où on est pauvre, on a faim, on pleure, hein? Et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Alors, la consolation que je peux avoir sur cette terre, dans tout ce que je peux me payer, hein, tout ce qu'on peut se payer de plaisir, le rassasiement de tous nos appétits, dans la société de consommation. C'est incroyable tout ce qu'on peut se payer aujourd'hui dans la société de consommation. À côté de, je ne sais pas moi, César, un ancien empereur, là, c'est rien à côté de ce que nous, on peut avoir. Hein? C'est rien à ce qu'il y a dans nos épiceries. Là. C'est... Et toute la jouissance dans tous les plaisirs du monde, c'est incroyable, les plaisirs qu'on peut avoir dans ce monde actuel-là. Et Jésus est en train de dire, tous ces plaisirs-là, là, à côté du plaisir qu'on a en Jésus, ça ne vaut pas de la « hum ». Hein? Ça ne vaut pas de la « hum ». C'est un malheur. C'est un malheur d'être inondé de tous ces plaisirs-là, artificiels, qui ne durent pas longtemps. Être pauvre, avoir faim, être triste, pleurer, être haï, rejeté, maltraité, c'est rien à comparer à ce qui s'en vient. On peut s'en réjouir maintenant. Amen. Wow! Wow! Hein? Décollez vos yeux sur votre pauvre petit moi. Hein? Décollez vos yeux. Puis où est-ce qu'on doit coller nos yeux? Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Regardons à la bonne place, c'est ça que Paul dit. Regardons à la bonne place, on ne regarde pas à la bonne place. Hein? Alors, le bonheur, il est où? Il est en Jésus. Levez vos yeux vers Jésus, levons nos yeux vers Jésus, on va être rayonnant de joie. Et ce n'est pas juste pour plus tard. C'est maintenant, il dit, en ce jour-là, où vous éprouvez ces difficultés-là, en ce jour-là, vous pouvez tourner vos regards vers Jésus et rayonner de joie. Est-ce que j'envie les riches? Quand on va à notre groupe maison, là, on passe une rue, c'est des châteaux, là, des millions de dollars, des immenses châteaux. Hein? Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en dedans. C'est exactement ça. Est-ce que j'envie ces personnes-là? Pas du tout. Pas du tout. Hein? D'aller avec mon petit groupe prier ensemble, ça, c'est le bonheur. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas d'amis chrétiens avec lesquels ils peuvent prier, peuvent partager, ils n'ont pas ça. Hein? Ils sont pognés avec... Ils n'ont pas besoin de Jésus, ils ont tout. Le drame des Québécois, c'est qu'on n'a pas besoin de Jésus. Père, donne-nous notre pain quotidien. Hein? On prie de ça? Pas besoin de ça. Pas besoin de Dieu. Québécois n'ont pas besoin de Dieu. On peut se procurer, on a assez de... Hein? Et ça, Jésus dit ça, c'est le malheur. Malheureux, malheureux. Si tu as juste ça à te mettre sous la dent, là, les plaisirs du monde, les choses du monde, tu es malheureux. Est-ce que je veux changer de place avec? Hein? Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin. Tu peux avoir plein de raisons, on va le voir tantôt, plein de raisons peut-être de ne pas être heureux, entre guillemets. Mais veux-tu changer de place avec celui qui ne connaît pas le Seigneur? Vraiment? Non. On doit changer notre façon de voir le bonheur. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est dans les moments les plus durs, les plus difficiles dans nos vies qu'on a le plus besoin de la joie du Seigneur. Je dirais qu'on peut trouver ou qu'on peut apprécier la vraie joie. C'est dans les moments les plus difficiles dans ma vie, dans les moments les plus difficiles dans ma vie que j'ai été le plus proche du Seigneur, que j'ai eu le besoin du Seigneur, puis que j'ai expérimenté son amour. Hein? Il y avait dans la Russie autrefois, il y avait une comtesse elle faisait partie de la noblesse. Et malheur pour elle se convertit à Jésus. Et elle ne se gêne pas pour témoigner à toute la cour. Et le tsar n'est pas content parce qu'elle gâche le party. Parler de Jésus dans un party, là, ça gâche la fête. Hein? Alors, il l'a fait jeter en prison. Et elle se retrouve avec la pire classe. Là. Elle passe la classe la plus heureuse, si on peut dire. avec des criminels, avec des gens. Et dans des conditions misérables. La prison là-bas, là, c'est pas comme ici aujourd'hui. Là. Dans des conditions misérables. Et après un certain temps, le tsar ordonne de la ramener dans sa présence. Puis là, avec un petit sourire dans le coin, il dit, « Puis, maintenant, es-tu prête à renoncer à ta foi stupide puis retrouver les plaisirs de la cour? » Et la comtesse, toute sereine, a répondu, « J'ai connu plus de joie et de bonheur en une seule journée en prison avec Jésus que j'en ai connu toute ma vie à la cour du tsar. » Elle a trouvé le bonheur, même dans sa condition misérable. Peut-être pour nous aider, on va regarder qu'est-ce que ça ne veut pas dire être toujours joyeux. OK? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Oh, wow! J'ai eu des examens cette semaine. Puis là, peut-être je vais apprendre que je vais avoir le cancer ou quelque chose de même. Hein? Ou ma femme. Ou tu sais que tu vas avoir le cancer. Tu viens d'apprendre ça, là. Est-ce qu'il y a un grand wow? C'est ça qui devrait ressortir. Je devrais toujours être joyeux. J'ai été victime d'injustice. Hein? J'ai été maltraité. Je vais perdre mon travail. Je vais perdre mon emploi. J'ai plus d'argent. Je me retrouve dans la rue. Wow! Il faut que je sois toujours joyeux. Hein? J'ai subi des abus. Je me suis fait maltraiter. Mon conjoint m'a trompé. Il m'a abandonné. Il a été violent. Wow! Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Wow! Je dois me réjouir de ça, de tous ces mauvais coups-là. C'est ça qu'il veut dire? Merci, Seigneur. Non. Être toujours joyeux, ça ne veut pas dire devenir insensible. Ne plus ressentir rien. Devenir insensible à la douleur, c'est pas ça que ça veut dire. Il n'y a plus rien qui me touche. Comment on appelle ça quelqu'un qui n'a plus rien qui le touche? Un cadavre. Hein? Touche un cadavre, là. Ça ne fait rien. Alors, soit que je suis mort intérieurement, que je ne ressens plus rien, ou mon cœur est tellement dur que je ne ressens plus rien, puis que toutes les épreuves de la vie tombent sur moi, puis comment on dit ça? Comme sur le dos d'un canard. Ouais. Ouais. C'est ça que ça veut dire? Hein? Non, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotion. Pas ça que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se faire croire, se faire accroire en québécois, là, ou faire semblant que tout va bien? Hein? Peu importe ce qui nous arrive, mais un gros bouchon là-dessus, et on prétend que tout va bien. On nie la réalité qui n'est pas belle. On vit dans le déni. Ça s'appelle la schizophrénie. Hein? Déconnecté de la réalité. Et ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein? On s'invente un monde imaginaire et puis on déconnecte de la réalité. Être toujours joyeux, ce n'est pas ça que ça veut dire. Masochiste. Hein? Soyons masochistes, plaisir, la douleur. Hein? Autrefois, il y a des moines là, qui se flagellaient pour mortifier la chair, et puis ils avaient du plaisir dans la douleur. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est magique. Un point important, là, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas être toujours joyeux, c'est pas j'ai une baguette magique, là, puis lorsque j'agite ma baguette magique, je vais devenir joyeux. Hein? En claquement de doigts, j'étais malheureux, je vais devenir joyeux. Alors, juste avant de donner l'autre version, pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre? Ouais. Mais plus que ça. Sauver, c'est juste une partie là, de son ministère, qu'on soit sauvé. C'est pas fini après qu'on est sauvé, n'est-ce pas? Ça n'arrête pas là. Oui, il y a un grand bonheur que nos péchés sont pardonnés, mais Jésus dit, je suis venu ici pour vous dire quelque chose, hein? Je vous ai dit ces choses, que ma joie soit en vous et qu'elle soit de temps en temps, partiellement, non, parfaite. La joie parfaite, je vous dis, j'ai des frissons. Là. Jésus, c'est ça son plan, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il désire pour chacun d'entre nous, qu'on soit dans le bonheur parfait. Il est venu sur terre dire des choses, nous donner sa parole pour que j'aie en moi sa joie parfaite. Hein? Mais, tant qu'on est sur terre, il y a toutes sortes de voix qu'on entend. On a déjà vu ça, on a déjà prêché la vie, il y a 7 voix. Continuellement, il y a des voix qu'on entend. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir du monde, ça peut venir... de l'intérieur, ça peut être ma chair stupide, ça peut être le diable, ça peut être mon nouveau cœur, l'Esprit de Dieu, ça peut être une prédication de dimanche, ça peut être un frère, une sœur. Continuellement, il y a des voix qui me parlent. Hein? Quelle voix est-ce qu'on écoute? Quelle voix est-ce que j'écoute qui va faire la différence? La voix de Jésus. Mes brebis entendre ma voix, elles me suivent, puis elles sont heureuses. Elles vont avoir ma joie. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est ses dernières volontés. Là. Mettons qu'il te reste une semaine à vivre. Là. Alors, ce que tu dis là, à tes disciples, hein, c'est très, très, très important. Et il a dit ça peu de temps avant sa mort. C'est son héritage spirituel. Alors, la joie apparaît pas par magie. Et c'est intéressant que la joie, c'est quoi? C'est un fruit. La joie, c'est un fruit. C'est le fruit de l'esprit. Comment je fais pour avoir des fraises, mettons, l'été prochain? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir des fraises l'été prochain? Je vais prier, puis je vais attendre que ça pousse dans mon jardin, que le voisin, je ne sais pas, il y a des... il y a quelque chose qui pousse dans moi. Non. Qu'est-ce que je fais? Je vais planter des graines, des semences, des plants. Hein? Je vais l'arroser, puis je vais enlever les mauvaises herbes. Puis Dieu va faire croître, puis je vais manger le fruit. Hein? Puis je pense que le Seigneur dit ça, la même chose, là. C'est la même chose. Ce n'est pas de la magie. La joie, ça n'apparaît pas par magie. La joie, c'est quelque chose qui se cultive. Et ça part d'où, la joie? De la parole, de ce que Jésus dit. Hein? Qui veut goûter à la joie du Seigneur? Ça prend quoi en premier? Une semence. Une semence. La parole de Dieu. Jésus nous dit ces choses. Je crois à ces choses-là et je vais récolter la joie. Ça va produire de la joie. Un exercice pratique. Trois situations. pratique, là. Comment je peux avoir la joie cette semaine à travers ce que je vais vivre? On va commencer avec quelque chose qu'on connaît bien. Un premier exercice, c'est comment je récolte la joie? Comment est-ce qu'un croyant peut être heureux s'il pêche? Est-ce que ça arrive des croyants pêchent? Comment est-ce qu'un croyant qui vient de pécher peut être heureux? C'est quoi l'émotion que je devrais ressentir lorsque je viens de faire cette chose-là, de dire cette chose-là? C'est quoi l'émotion légitime que je devrais ressentir? Pardon? La tristesse qui vient de Dieu. Oui, la tristesse, la honte même, la culpabilité. Et je me sens misérable, c'est tout à fait normal. C'est normal de me sentir de même. Hein? C'est la preuve que je suis un enfant de Dieu parce que j'ai désobéi à mon amour, hein? qui m'aime d'un amour infini puis qui l'a prouvé, puis je viens de faire ça. Alors, c'est pas normal. David, hein? On connaît le psaume 32, David, il dit, « Tant que je me suis tu, tant que j'ai caché, me suis caché ça, mes os se consumaient, il y avait mal dans son corps. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Il y avait mal partout, hein? Dans son âme, dans son corps. Et c'est les émotions normales lorsque je fais quelque chose qui déplaît à Dieu. C'est normal que je ressente ça. Il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je vais avouer mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Avant, il n'a juste de dire, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Il est où le bonheur d'un croyant qui pêche? Ouais, à la confession, la tristesse. Hein? Et je dirais que le bonheur est aussi grand que la tristesse que je ressens. Le bonheur d'être pardonné est aussi grand que la tristesse, la honte, la culpabilité que je ressens. Plus je suis triste, plus je suis coupable, plus ma confession est sincère, hein? Plus je vais goûter au pardon de Dieu. Et wow, la joie de savoir que mon péché est pardonné. Alors, la joie, c'est un fruit, là. Ça vient de la parole de Dieu, que je crois à la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu qui dit, on connaît ça, hein? Le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. Ça produit le bonheur. Plus je suis triste, plus je confesse, plus je récolte le bonheur, plus j'écoute la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin du pardon de Dieu? Arrête de te taper dessus, arrête de te culpabiliser. Tu as jusqu'au coucher du soleil pour vivre ces émotions-là. Après ça, ça se transforme en quelque chose de malsain, quelque chose qui détruit. Reçois le pardon maintenant, confesse ton péché, puis reçois le pardon maintenant. Puis tu vas avoir le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il est là, le bonheur. Il est dans le pardon. Alors ça, c'est un exemple, je pense, qui est simple, qu'on pratique normalement. Un deuxième exemple, pratique. « avons une idée? Comment elle se sent, la personne? Pardon? Écrasée, oui. Quelqu'un vient de te faire du mal. Quelqu'un vient de te dire quelque chose de méchant, là. Hein? Quelqu'un te méprise. Quelqu'un te maltraite et abuse de toi. Comment tu te sens? Tu es victime de méchanceté. Est-ce que tu dis « Wow! » Hein? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a un mécanisme là, qui doit se mettre en branle à partir de ce moment-là. Non, on est des êtres humains, on a été créés à l'image de Dieu, et ressentir de la tristesse, de la colère, quand quelqu'un abuse d'une autre personne ou de soi, c'est parfaitement légitime. Dieu, on a été créés à l'image de Dieu, c'est ça que Dieu ressent lorsque quelqu'un nous fait du mal. Si je ressens rien, je suis un cadavre ou j'ai un cœur tellement dur, tellement déconnecté de la réalité que je ne ressens plus rien. Non. Au départ, ce n'est pas la joie, là. Hein? Ce n'est pas du fake. Alors, c'est légitime d'avoir mal. Le danger et le défi, c'est qu'est-ce que je fais avec cette tristesse, avec cette colère, avec ces émotions-là qui sont tout à fait légitimes. C'est qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça qui est le défi. C'est ça qui détruit. Hein? Un verset clé, en tout cas dans les forteresses, mais Éphésiens 4, 26, c'est un impératif. Hein? Mettez-vous en colère. Il y a des traductions qui hésitent à dire, ils vont dire « si vous vous mettez en colère ou... » Mais ça dit « mettez-vous en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. » Combien d'entre nous se sont couchés sur leur colère pour une parole, un geste, un abus qui a été commis il y a 5, 10, 15, 20 ans? Ça fait combien de soleils qui se sont couchés sur cette colère-là? Qu'est-ce que vous pensez que ça va produire comme fruit? Lorsque je ne règle pas ma colère selon Dieu, qu'est-ce que vous pensez que ça va produire comme fruit dans ma vie? Le lendemain matin, l'amertume, une racine d'amertume, hein? La vengeance, le mépris de l'autre personne. On va lui faire mal comme elle m'a fait mal, ce qui est parfaitement légal. C'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, je suis en position pour lui faire du tort. Ou on se retire. Hein? Je lui pardonne, mais je ne veux plus rien savoir. Mais sais-tu que Dieu va te pardonner comme ça aussi? Il dit, je te pardonne, mais je ne veux plus rien savoir de toi. C'est le pardon, ça? Non. Non. Alors, il y a un danger si on ne règle pas notre colère selon Dieu, que ce qu'on va récolter comme fruit, ça va être le contraire de la joie. Le contraire de la joie. Tu vas vivre dominé, prisonnier, torturé par des mauvaises pensées. Et le diable a une porte ouverte, le diable a accès à ces pensées-là, puis il va t'en donner, lui, des moyens de te venger, de te faire justice, de te faire tort. Alors, ça va tout détruire. Ça va te détruire. Ça va détruire ton couple. Ça va détruire ta famille. Ça va détruire ton église. Ça va tout détruire autour de toi parce que tu n'as pas appliqué le remède du Seigneur. Tu n'as pas suivi le Seigneur. Quel est le remède du Seigneur contre l'abus, contre l'offense, contre la colère que je ressens? C'est quoi, d'après vous, le remède? Oui. Hein? Supposé avancer. Ça n'avance pas? Non, c'est pas celui-là. En tout cas, Pardonnez-nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le remède contre la colère. Et ce que c'est, en gros, là, j'ai pas le temps d'en parler plus en profondeur, mais pardonner, là, ça veut dire que cette personne-là, là, au lieu d'être entre mes mains, et puis je vais lui régler son compte comme elle le mérite, ça serait toute la justice de Dieu que la personne elle souffre comme elle a fait souffrir. Alors, au lieu de la garder dans mes mains, puis de la détester en secret ou peut-être pas en secret, hein, je la remets entre les mains de Dieu. Pardonner, c'est ça. Remettre cette personne-là qui nous a offensés entre les mains de Dieu. Et quand on fait ça, je vous dis, les chaînes tombent, on est libéré de toute cette méchanceté-là dont on a été victime, puis qui nous garde prisonniers et qui va nourrir et faire produire du mauvais fruit. Alors, pardonner, c'est tendre tes mains, là, puis j'aurais le goût de t'étouffer. Au lieu de ça, je vais rester dans la position de victime. Je ne monterai pas sur le trône, ce n'est pas moi ton juge. Je te remets entre les mains de Dieu. C'est lui ton juge maintenant. Puis, wow, wow, la joie que vous allez avoir. Vous ne verrez plus la personne comme un ennemi à battre. Vous allez la voir comme une pauvre personne qui a besoin du pardon de Dieu. Ça va changer complètement. Vous allez avoir la joie de pardonner. La joie de pardonner. Wow! Là, on peut dire wow. Sur le coup, on ne dit pas wow. Mais si j'écoute et j'obéis à ce que Jésus dit, je vais avoir sa joie dans mon cœur. OK? Un autre exemple, un dernier exemple. Quoi faire avec la peur? L'inquiétude, t'apprends une mauvaise nouvelle, là. Hein? Il y a une épreuve terrible que tu es en train de traverser ou qui est une situation difficile, là. Est-ce que tu te dis « wow » hein? Pas sur le coup. Non. On a un laps de temps où on peut vivre nos émotions. Je peux dire « Seigneur, Seigneur, j'ai peur. Père, Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Ça n'a pas de bon sens. » Jésus a dit cette prière-là. Est-ce qu'il ne savait pas? Il ne savait pas ce qu'il faisait? Pas du tout. Non, c'est un être humain à 100%. Il a juste exprimé ce qu'il ressentait. Il était abandonné par son Père. Il était, depuis l'éternité, là, ils étaient unis ensemble. Puis là, il était séparé de son Père. Puis il criait sa douleur. Il y a un temps où on peut crier notre douleur, notre inquiétude. Hein? Alors, parfois, on est dans une épreuve, puis on atteint la limite. On atteint nos limites. Je dirais la limite de notre foi. Et le Seigneur, il dose ça, il paraît. Hein? Il ne nous donne pas d'épreuve s'il est au-delà de nos capacités. Mais je peux vous dire qu'il peut nous amener à la limite de notre foi, de ce qu'on est capable de prendre. Hein? Il nous amène au bout de notre foi. Tu crois ou tu meurs. Tu crois, ou bien c'est fini avec Dieu. Hein? Et c'est là que la foi se révèle. Où tu n'as pas d'autre solution. La seule solution que tu as, tu te tournes vers les autres personnes, ils n'ont pas de solution. Tu te tournes vers tes capacités, vers tes moyens, il n'y a rien là. La seule issue, la seule personne qui peut m'aider, c'est toi, Seigneur, et je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. Stop. Stop l'inquiétude. Stop l'angoisse. Je me lève, puis je m'envoie à la croix. Jardin de Gethsémané. Hein? Stop. C'est normal d'avoir cette peur-là, d'avoir ces inquiétudes-là. Si je ne suis pas, je ne suis pas humain. Alors, plus l'inquiétude est grande, plus la foi elle va ressortir, l'épreuve de notre foi. Hein? Ça va ressortir. Et qu'est-ce que je veux récolter comme fruit? Vous pensez? Qu'est-ce que je veux récolter comme fruit? La joie. La joie de la victoire. Je vais marcher à tous les jours. Là. L'inquiétude va venir frapper à la porte. Puis je vais dire, dehors, dehors, dehors l'inquiétude, la peur, l'angoisse. Non, 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 non. Je choisis de faire confiance au Seigneur. Je ne comprends pas tout ce qui arrive, mais je choisis, Seigneur, de te faire confiance. Je fais un pas, puis ça revient. Qu'est-ce que tu fais? Ah oh non, ça ne marche pas. Non, non. Hein? La persévérance, la patience. J'exprime ma foi à chaque fois, à chaque pas. Et devinez ce qu'on va récolter comme fruit? La joie de la victoire. La joie de la victoire dans les épreuves. Je vais chanter des cantiques dans les épreuves. Crois-tu ça? Capable de chanter des cantiques de louange à Dieu. Le diable, il haït ça, là. Il déteste ça, là. Tu devrais te morfondre, tu devrais te hein, angoisser, puis ça ne marche pas, son système. Hein? Me voilà en train de chanter des cantiques. Hein? Wow! Alors, on termine avec cette promesse-là. Il y a la version Louis II, mais la version Parole de vie. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Pas sur le coup. Hein? Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors, vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien, vous allez être dans la joie. On sait tout ça. Maintenant, pratiquons-le. Pratiquons-le. Hein? Ce n'est pas évident parce qu'on a un vieux réflexe. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que le vieux système, il tourne dans ma tête, là. Puis j'ai le mauvais réflexe de faire avec ma colère, avec ma peur, avec ma faute. J'ai un mauvais réflexe. Mais si j'apprends un nouveau réflexe, je vais être dans la joie. On va prier ensemble. Seigneur, on vient à toi tel qu'on est ce matin, là. Seigneur, y a-t-il des personnes ici qui sont tristes parce qu'ils ont péché contre toi? Dis au Seigneur, 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 combien, Seigneur, je suis triste. Je te demande de me pardonner maintenant. Pardonne-moi, Seigneur, ce péché-là en particulier. Et je reçois ton pardon maintenant. Et je veux marcher maintenant dans la sainteté, dans la pureté. Mon âme qui est lavée, qui est purifiée. Et ça, Seigneur, c'est le vrai bonheur. S'il y a des personnes ici qui sont victimes de méchanceté, ils ont été maltraités, puis ils conservent de l'amertume dans leur cœur. Mais ce matin, Seigneur, je t'amène cette personne-là qui a dit telle affaire, qui a détruit ma vie. Et au lieu, Seigneur, de l'étouffer là, entre mes mains, puis de la détester en secret. Seigneur, je la prends et je la remets dans tes mains maintenant. Seigneur, je lui pardonne le mal qu'elle a fait et je brise les mauvais liens entre moi et cette personne. Et Seigneur, j'ai la joie de pardonner. J'ai la joie de pardonner à cette personne-là, d'être libéré de ce fardeau-là. Et Seigneur, est-ce qu'il y a des personnes qui sont inquiètes? C'est quoi cette épreuve-là? Peuvent dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu me fais passer à travers ces difficultés-là? Je choisis ce matin de dire non, stop. Je ne me laisserai pas aller à la peur, à l'inquiétude, à l'insécurité. Je choisis ce matin, Seigneur, de te faire confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi, dans toutes les promesses que tu as dites. J'ai confiance, Seigneur, que tu es avec moi dans cette épreuve. Et je veux marcher dans la victoire, pas après pas. Je veux marcher dans la joie de marcher sur mon inquiétude. Seigneur, tu as vécu sur la terre, tu sais ce que c'est. Tu as passé à travers toutes ces choses-là. Et tu es là, Seigneur, maintenant. Pour nous. Et ton désir le plus cher, c'est que chacun d'entre nous, chaque personne ici, soit dans le bonheur total, dans la joie parfaite. Alors aide-nous, Seigneur Dieu, à pratiquer cette joie-là qu'on a en toi et qu'on devienne contagieux. Il y a des gens au Québec qui ont besoin de voir ce bonheur-là dans nos vies. Et Seigneur, on veut être ces instruments-là dans ta main. Amen. À l'attaque.